L'Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 20 à 26. Ce texte tourne autour de deux mots. Le premier, le mot « un » ou « uni », c'est la même chose. Et ce mot « un » ou « uni » revient sept fois dans les sept versets. Le verbe « connaître » revient six fois. Alors, est-ce que c'est par hasard que le mot « un » revient sept fois et le verbe « connaître » revient six fois? Je ne crois pas. Parce que Jean, dans tous ses écrits, il aime bien jouer avec les chiffres. Il y a toute une symbolique chez cet auteur quand il donne des informations sur des chiffres, par exemple, les 5 pains et les 2 poissons, 5000 hommes à nourrir et les 12 corbeilles, ainsi de suite. Et même quand vous lirez le texte dans l'Apocalypse, il n'y a que des chiffres. Mais reprenons alors les deux chiffres, 6 et 7 dans notre texte. Ils n'ont pas été énumérés explicitement, mais ça se voit à travers une simple lecture. Et pour vérifier que cette hypothèse que j'avance ne tombe pas dans une simple spéculation sur les chiffres, mais il faut vérifier cela dans tout l'évangile de Jean. Ou choisir un texte parallèle qui pourrait nous aider à maintenir cette piste de la symbolique des chiffres avancer dans ce texte. Je refais le résumé pour que nous sommes bien sûrs de suivre l'explication. Le mot « un » ou « uni » revient sept fois, je dis, et le verbe « croire » revient six fois. Et nous allons prendre l'histoire, toujours dans le livre de Jean, l'histoire du mariage de Cana, où Jésus avait changé l'eau en vin dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Et rappelez-vous, un banquet qui durait sept jours. Ça, c'est la tradition juive. Et ce n'est qu'à la dernière journée, le dernier jour, c'est à la fin de la noce que Jésus avait changé l'eau en vin, puisque avant cela, il buvait le vin qui était prévu, mais hélas, insuffisant. Toujours dans ce même chapitre de Jean, il est mentionné les 6 jarres qu'on utilisait pour les rites de purification qui a été utilisé. Donc, Jésus avait choisi exprès de mettre le vin dans ces 6 jarres pour mettre un accent sur le manque, parce que le chiffre 6, c'est le manque au 7e jour. Le 7e jour qui est toujours compris comme l'apogée et l'accomplissement. Si vous suivez le récit de la création, le 7e jour, tout est accompli. Et à côté de cela, le chiffre 6 sous-entend alors un manquement. Et ce manquement a été illustré par ce manque de vin dans les 6 jarres. Donc, en tenant compte du sens des chiffres donnés par Jean, nous pouvons conclure qu'il serait impossible de connaître, et le verbe connaître revient six fois, il est impossible, il est insuffisant de connaître le Christ si nous ne sommes pas unis à lui, avec le mot un et uni. Et déjà le verbe co plus naître exprime une relation, une union avec le Christ. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est vraiment une union. Sans une union avec le Christ, une connaissance sur le Christ reste largement insuffisante. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui se prononcent agnostiques, qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus, mais qu'ils adhèrent et partagent les valeurs chrétiennes. Ça, on entend partout, dans les journaux. Ah, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Dieu, mais je partage les valeurs chrétiennes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le fait d'épouser les valeurs chrétiennes suffisent pour être juste devant Dieu? Non, selon l'apôtre Jean. Et finalement, c'est quoi ces soi-disant valeurs chrétiennes? Le partage? Peut-être. La cohésion sociale? Peut-être. L'entraide? Peut-être. Ou l'amitié même? Ce sont tous des valeurs chrétiennes. Mais ces valeurs ne nous appartiennent pas exclusivement. Ça ne nous appartient pas aux chrétiens. Tout le monde peut avoir ça, cette cohésion sociale. Même ceux qu'on pense agnostiques. Et parfois même, ils vont plus loin que nous dans ces valeurs. Ces valeurs font partie des valeurs humaines déjà inculquées par Dieu pour le genre humain. Donc nous ne pouvons pas les en approprier exclusivement pour le christianisme. Ces valeurs ne sont pas une marque déposée du christianisme, si je peux le dire. Et ce serait prétentieux de le penser que nous, les chrétiens, ce sont nos propres valeurs. Non, ce sont des valeurs communes. Et je vous assure même, il existe des personnes non chrétiens qui ont une vie encore plus extraordinaire que nous, digne de louange dans leur manière de vivre, dans leur agissement. Ceux qui reçoivent les prix Nobel de la paix, par exemple. Mais tout cela ne lui fait pas d'un chrétien. Un chrétien, selon Jean dans ce texte, c'est celui qui est uni au Christ. C'est quelqu'un qui a lié son histoire avec celle du Christ. Voilà un chrétien. Et au chapitre 15, Jean est encore plus explicite. Au verset 6 et 7, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté en dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alors, qu'est-ce qui tissait alors ce lien entre Jésus et ses disciples? Ce lien a été tissé par sa parole uniquement. Dans Marc chapitre 3, verset 33, il est dit « Qui est ma mère ?» Rappelez-vous les gens qui venaient devant Jésus pour dire « Ta mère, tes frères sont là, ils te cherchent. » Et il a répondu « Mais qui est ma mère? Mais qui sont mes frères ?» Et après cela, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, et il disait « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Ceux qui étaient avec lui nuit et jour, bravant le froid, la chaleur, la faim, la pluie, la fatigue, ce sont eux qui sont mes frères. Parce qu'ils demeurent avec moi, ils restent avec moi, ils sont unis à moi, ils sont collés à ma personne. C'est ça, être chrétien. Et cela rejoint ce que Jésus avait dit, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, un chrétien, ce n'est pas une personne qui suit une idéologie chrétienne, mais un chrétien, c'est celui qui ne peut vivre sans le Christ. C'est ça, être chrétien. Le Christ devient son oxygène. Le Christ devient sa raison de vivre. Sans le Christ, il n'est plus rien. Il n'est plus l'homme de Dieu. Donc le Christ prend la place principale, car il est devenu son besoin vital. Et c'est grâce à cette parole du Christ que le lien est tissé, tout doucement, entre les frères et les sœurs en Christ. Et là, quand on parle de la relation entre frères et sœurs en Christ, je dis bien en Christ, ce n'est pas une amitié ou une forme de pitié que nous avons envers l'autre parce qu'il souffre. Tout le monde peut avoir de la pitié. même le païen, même celui qui ne craint pas Dieu. Mais le lien qui doit nous unir entre frères et sœurs en Christ, c'est un lien qui vient de cette parole du Christ. Donc, il n'y a pas de communion sans la parole. Sans la parole, il n'y a pas de communion. Et en tant qu'être humain, on sait bien que nous avons des liens de famille avec nos proches, nous avons des liens d'amitié avec nos voisins, nos collègues, nos amis d'enfance. Mais ça, ce n'est pas de la communion, c'est juste de l'amitié. Cette amitié pourrait être très forte, mais ne dépassera jamais la communion. La communion chrétienne ne vient pas de nous. La communion ne vient pas de notre volonté. Mais cette communion, elle vient de la parole de Dieu. Et la communion avec les frères et sœurs en Christ ne se fait pas automatiquement. Elle se fait par la parole. En écoutant cette parole, ce lien se met en place. Et je souligne bien communion et non relation. Nous sommes invités à avoir, bien sûr, des relations avec monsieur et madame tout le monde, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes ou agnostiques ou athées. Ça, c'est vrai. Mais jamais nous aurons une communion avec eux. La communion est réservée contre les frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi je profite de cette occasion de lancer cet appel, faisant très attention, chers frères et sœurs en Christ. Car Paul était très clair dans ses propos quand il disait « De quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial ?» Bélial, c'est Satan, ou le vaurien. « Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Il n'y a pas de communion possible. Alors si la communion des saints n'est pas qu'une simple amitié, c'est quoi alors concrètement? Et Jésus nous donne la réponse au verset 21. Nous allons relire dans Jean chapitre 17, verset 21. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus ici parle de sa relation avec le Père. C'est-à-dire, Jésus était inclus dans la divinité du Père. Le mot « inclus » souligne bien cette communion. Il partage la même substance que le Père. Et donc, nous aussi, si nous sommes un avec le Christ, c'est parce que nous partageons avec lui le même titre d'enfant de Dieu. Mais nous sommes des enfants adoptés. Lui, il est le fils, le premier fils d'entre les morts. Et donc, quand nous voyons notre frère, quand nous voyons notre sœur en Christ, que voyons-nous en lui ou en elle? Jésus ne voit qu'une seule chose en nous, un frère, une sœur, un co-héritier du royaume de Dieu, tout simplement un enfant de Dieu. Mais toi, quand tu me vois, et moi quand je te vois, que vois-je en toi? Est-ce l'enfant de Dieu ou une simple personne? Amen.